France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Jacques le fataliste, aussi réputé comme le plus débauché des garçons du village. Il faut dire qu'il a été surpris dans l'endroit le plus reculé de la Chaumière. Oui, une réputation assez bien méritée. L'histoire d'un homme de sens qui se pique de philosophie. Comment peut-on s'amuser à débiter des contes de cette obscénité? Ce ne sont pas des contes, ce sont des histoires. Voici le 8e épisode de l'adaptation de l'œuvre de Diderot, Jacques le fataliste, épisode diffusé pour la première fois sur RTF Promotion le 19 novembre 1963.
Jacques le fataliste et son maître de Diderot, découpé par Roger Pilaudin et réalisé par Henri Soubéran.
Voilà une cruelle toux. Quel diable de toux. Aussi tu t'en es donné du vin de l'hôtesse jusqu'au fond de la gorge. Allons, allons, allons.
J'ai oublié de vous dire, auditeur, que Jacques n'allait jamais sans une gourde remplie du meilleur vin. Elle était suspendue à l'arçon de sa selle. À chaque fois que son maître interrompait son récit par quelques questions un peu longues, il détachait sa gourde, en buvait un coup à la régalade et ne la remettait à sa place que quand son maître avait cessé de parler. J'avais encore oublié de vous dire que dans les cas qui demandaient de la réflexion, son premier mouvement était d'interroger sa gourde. Fallait-il résoudre une question de morale, discuter un fait, préférer un chemin à un autre, entamer, suivre ou abandonner une affaire, peser les avantages ou les désavantages d'une opération de politique, d'une spéculation, de commerce ou de finance, la sagesse ou la folie d'une loi, le sort d'une guerre, le choix d'une auberge, dans une auberge le choix d'un appartement, dans un appartement le choix d'un lit. Son premier mot était
« Interrogeons la gourde ».
Son dernier
« C'est l'avis de la gourde et le mien ».
Lorsque le destin était muet dans sa tête, il s'expliquait par sa gourde. C'était une espèce de pitié portative, silencieuse aussitôt qu'elle était vide. Et Adelphe, la pitié, ses cotillons retroussés, assise à cul nu sur le trépied, recevait son inspiration de bas en haut. Jacques, sur son cheval, la tête tournée vers le ciel, sa gourde débouchée et le goulot incliné vers sa bouche, recevait son inspiration de haut en bas. Lorsque la pitié et Jacques prononçaient leurs oracles, ils étaient ivres tous les deux. Ils prétendaient que l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres dans une gourde. Il appelait la Pentecôte la fête des gourdes. Il a laissé un petit traité de toutes sortes de divinations, traité profond, dans lequel il donne la préférence à la divination de Bacbuc, ou par la gourde. Il s'inscrit en faux, malgré toute la vénération qu'il lui portait, contre le curé de Meudon, qui interrogeait la dive Bacbuc par le choc de la panse.
« J'aime Rabelais, mais j'aime mieux la vérité que Rabelais. »
Il l'appelle « hérétique en gastrimute ».«
En gastrimute ?»
Oui, mais un instant, s'il vous plaît, auditeur, j'y reviendrai tout à l'heure. Et il prouve, par 100 raisons, meilleures les unes que les autres, que les vrais oracles de Bacbuc ou de la gourde ne se faisaient entendre que par le goulot. Il compte au rang des sectateurs distingués de Bacbuc, des vrais inspirés de la gourde dans ces derniers siècles, Rabelais, Lafare, Chapelle, Chaulieu, La Fontaine, Molière, Panard, Galet, Vadet.
Et Platon et Jean-Jacques Rousseau.
Qui prônèrent le bon vin sans en boire, sont à son avis de faux frères de la gourde. La gourde eut autrefois quelques sanctuaires célèbres. La pomme de pin, le temple et la guinguette. sanctuaire dont il écrit l'histoire séparément. Il fait la peinture la plus magnifique de l'enthousiasme, de la chaleur, du feu dont les Bacbuciens ou Périgourdins étaient et furent encore saisis de nos jours lorsque, sur la fin du repas, les coudes appuyés sur la table, la dive Bacbuc où la gourde sacrée leur apparaissait était déposée au milieu d'eux, sifflait, jetait sa coiffe loin d'elle et couvrait ses adorateurs de son écume prophétique. Son manuscrit est décoré de deux portraits, au bas desquels on lit Anacréon et Rabelais, l'un parmi les anciens, l'autre parmi les modernes, souverain pontife de la gourde.
Et Jacques s'est servi du terme engastrimute?
Mais pourquoi pas, auditeur? Le capitaine de Jacques était bacbucien, il a pu connaître cette expression, et Jacques, qui recueillait tout ce qu'il disait, se l'a rappelé. Mais la vérité, c'est que l'engastrimute est de moi. Et qu'on lit sur le texte original « ventriloque ».
Tout cela est fort beau. Mais les amours de Jacques...
Les amours de Jacques? Mais il n'y a que Jacques qui les sache. Et le voilà tourmenté d'un méchant mal de gorge.
Qu'allons-nous donc devenir?
Il paraît que Jacques, réduit au silence par son mal de gorge, suspendit l'histoire de ses amours et que son maître commença l'histoire des siennes.
Rien n'est plus triste dans ce monde que d'être un sot.
Qui a dit cela? Est-ce Jacques? Est-ce son maître?
Ma foi, ce serait le sujet d'une longue et épineuse dissertation. Si Jacques était assez insolent pour adresser ses mots à son maître, celui-ci était assez franc pour se les adresser à lui-même. Enfin, quoi qu'il en soit, il est évident, il est très évident que c'est le maître qui continue.
C'était la veille de sa fête et je n'avais point d'argent. Le chevalier de Saint-Ouen, mon intime ami, n'était jamais embarrassé de rien.
Tu n'as point d'argent?
Non.
Eh bien, il n'y a qu'à en faire.
Et tu sais comment on en fait?
Sans doute. Suis-moi chez Monsieur Lebrun.
Qui est Monsieur Lebrun?
Un honnête courtier d'usure.
C'est vous, monsieur le chevalier.
Eh oui, c'est moi, mon cher Lebrun.
Mais que devenez-vous donc? Il y a une éternité qu'on ne vous a vu. Ah. Les temps sont bien tristes, hein, n'est-il pas vrai?
Ah, très triste, mon cher Lebrun. Mais il ne s'agit pas de cela. Écoutez-moi, j'aurais un mot à vous dire.
Je m'assieds, le chevalier et Lebrun se retirent dans un coin et se parlent. Je ne puis te rendre de la conversation que quelques mots que je surpris à la volée.
Il est bon?
Excellent.
Majeur?
Très majeur.
C'est le fils?
Le fils.
Savez-vous que nos deux dernières affaires...
Chut, parlez plus bas.
Le père?
Riche?
Vieux?
Caduc?
Tenez, monsieur le chevalier, je ne veux plus me mêler de rien. Cela a toujours des suites fâcheuses. C'est votre ami à la bonne heure. Monsieur a tout à fait l'air d'un galant homme, mais...
Mon cher Lebrun...
Je n'ai point d'argent.
Mais vous avez des connaissances.
Ce sont tous des gueux, des fiefs et fripons. Monsieur le chevalier, n'êtes-vous point là de passer par ces mains-là?
Nécessité d'un point de loi.
La nécessité qui vous presse est une plaisante nécessité. Une bouillotte, une partie de la belle, quelques filles.
Cher ami.
Non, c'est toujours moi, je suis faible comme un enfant. Et puis vous, je ne sais pas à qui vous ne feriez pas fausser un serment. Allons, sonnez donc que je sache si Fourgeot est chez lui. Fourgeot vous mènera chez Merval.
Pourquoi pas vous?
Moi? J'ai juré que cet abominable Merval ne travaillerait jamais ni pour moi ni pour mes amis. Il faudra que vous répondiez pour monsieur, qui peut-être est... qui sans doute est un honnête homme. Que je réponde pour vous à Fourgeot et que Fourgeot réponde pour moi à Merval. Faites venir monsieur Fourgeot.
Mon cher Lebrun, mon cher ami, que je vous suis reconnaissant.
Oh, monsieur Lebrun, mon cher monsieur...
Voici Fourgeot.
Allons, monsieur Mathieu de Fourgeot, nous n'avons pas un moment à perdre. Conduisez-nous vite.
Mais où donc, monsieur?
Chez monsieur de Merval. Monsieur Lebrun, est-ce que vous ne venez pas avec nous?
Moi? Ah, Dieu m'en préserve. C'est un infâme que je ne reverrai de ma vie.
Mais sans vous, monsieur Lebrun, nous ne finirons rien.
Ah, il est vrai. Allons, mon cher Lebrun, il s'agit de me servir. Il s'agit d'obliger un galant homme qui est dans la presse. Vous ne me refuserez pas, vous viendrez.
Ah, le juge Merval, moi.
Moi? Oui, vous viendrez pour moi.
Je crois que monsieur le chevalier me ferait faire de la fausse monnaie.
Allons!
Nous voilà chez Merval.
Mathieu de Fourgeot.
Eh bien, qu'en veux-tu dire?
Mathieu de Fourgeot. Mais... Je veux dire que monsieur le chevalier de Saint-Ouen connaît ces gens-là par nom et surnom. Et que c'est un gueux d'intelligence avec toute cette canaille-là.
Oui, tu pourrais bien avoir raison. Nous voici donc chez monsieur de Merval. Mon âge de majorité et ma solvabilité bien constatée, monsieur de Merval prit un air affectueux et triste.
Monsieur, je suis au désespoir. J'ai été cette même matinée obligé de secourir un de mes amis, pressé des besoins les plus urgents, et je suis tout à fait à sec. Monsieur, n'ayez point de regret de ne pas être venu plus tôt. J'aurais été affligé de vous refuser, mais je l'aurais fait. L'amitié passe avant tout.
Voyons, mon cher Merval.
Messieurs, vous me connaissez tous. J'aime à obliger et tâche de ne pas gâter les services que je rends en les faisant solliciter. Mais foi d'homme d'honneur, il n'y a pas 4 louis dans la maison.
Chevalier, allons-nous-en, puisque ces messieurs ne peuvent rien.
Mais tu n'y penses pas. C'est la veille de sa fête. Je l'ai prévenue, je t'en avertis. Et elle s'attend à une galanterie de ta part. Tu la connais. Ce n'est pas qu'elle soit intéressée, mais enfin, elle est comme toutes les autres, qui n'aiment pas à être trompées dans leur attente. Elle s'en sera déjà vantée à son père, à sa mère, à ses tantes, à ses amis. Et après cela, d'avoir rien à leur montrer, cela est mortifiant.
Bon.
Merval. Mon cher Merval.
J'ai la plus sotte âme du monde, je ne saurais voir les gens en peine. Je rêve et il me vient une idée.
Quelle idée?
Pourquoi ne prendriez-vous pas des marchandises?
Oui, en avez-vous?
Non, mais je connais une femme qui vous en fournira, une brave femme, une honnête femme.
Oui, mais qui nous fournira des guenilles qu'elle nous vendra au poids de l'or et dont nous ne retirerons rien.
Rien du tout, ce seront de très belles étoffes, des bijoux en or et en argent, des soieries de toute espèce, des perles, quelques pierreries. Il y aura très peu de choses à perdre sur ces effets. C'est une bonne créature à se contenter de peu pourvu qu'elle ait ses sûretés. Ce sont des marchandises d'affaires qui lui reviennent à très bon prix. Au reste, voyez-les, la vue ne vous en coûtera rien.
Mais messieurs, mon état n'est pas de vendre. Quand cet arrangement ne me répugnerait pas, ma position ne me laissera pas le temps d'en tirer parti.
Qu'à cela ne tienne, monsieur, nous vendrons pour vous.
Mais c'est l'embarras d'une demi-journée.
Ah, monsieur, je suis charmé de vous obliger. Mais croyez-moi, faites rarement de pareils emprunts. Ils finissent toujours par ruiner. Ce serait un miracle dans ce pays-ci que vous eussiez encore à traiter une fois avec d'aussi honnêtes gens que messieurs Lebrun et Mathieu de Fourgeot.
C'est trop de bonté, monsieur de Merval.
Nous avons tâché jusqu'à présent de faire notre petit commerce en conscience.
Et il n'y a pas de quoi nous louer.
Vous vous trompez, messieurs, car qui est-ce qui a de la conscience à présent? Demandez à monsieur le chevalier de Saint-Ouen qui doit en savoir quelque chose.
Après dîner dans une auberge voisine, nous voilà de nouveau chez Merval, où sa marchande nous avait précédé avec ses marchandises.
Voilà, messieurs, de belles étoffes. Des toiles, des dentelles, des bagues, des diamants, des boîtes d'or.
Nous primes de tout. Ce furent Lebrun, Mathieu de Fourgeot et le chevalier qui mirent le prix aux choses. Et c'est Merval qui tenait la plume.
Voici. Le total se monte donc à 19 775 livres.
Monsieur, votre dessein est de payer vos billets à leurs échéances.
Assurément.
En ce cas, il vous est indifférent de me faire des billets ou des lettres de change.
Des lettres de change?
Des lettres de change? Mais mademoiselle, mais ces lettres de change courront. Et l'on ne sait entre quelles mains elle pourrait aller.
Oh, vous vous moquez, monsieur le chevalier. On sait un peu les égards dus aux personnes de votre rang. On tient ces papiers-là dans son portefeuille. Ah. On ne les produit qu'à temps.
Et vous signâtes les lettres de change.
Il est vrai.
C'est l'usage des pères, lorsque leurs enfants partent pour la capitale, de leur faire un petit sermon. Ne fréquentez point mauvaise compagnie. Rendez-vous agréable à vos supérieurs par de l'exactitude à remplir vos devoirs. Conservez votre religion. Fuyez les filles de mauvaise vie, les chevaliers d'industrie. Et surtout, ne signez jamais de lettres de change.
Que veux-tu, je fis comme les autres. La première chose que j'oubliais, ce fut la leçon de mon père. Me voilà pourvu de marchandises à vendre, mais c'est de l'argent qu'il nous fallait.
Ami, je prends ces quelques paires de manchettes à dentelle au prix coûtant. Voilà déjà une partie de tes emplettes sur laquelle tu ne perdras rien.
Moi, je vous prends cette montre et ces deux boîtes d'or, dont je vais sur le champ vous apporter la valeur.
Je prendrai en dépôt le reste chez moi.
Je mis dans ma poche une superbe garniture avec les manchettes. C'était une des fleurs du bouquet que j'avais à donner. Mathieu de Fourgeau revint, en un clin d'œil, avec 60 louis. Il en retint 10 pour lui, et je reçus les 50 autres.
Non, ne craignez rien, je n'ai vendu ni la montre, ni les deux boîtes d'or. Je les ai seulement mises en gage.
En gage?
Eh oui.
Je sais où.
Où?
Chez la Bridoie, la demoiselle aux lettres de change.
Il est vrai. Avec la paire de manchettes et sa garniture, je pris encore une jolie bague avec une boîte à mouches doublée d'or. J'avais 50 louis dans ma bourse et nous étions, le chevalier et moi, de la plus belle gaieté.
Il n'y a dans tout ceci qu'une chose qui m'intrigue, c'est le désintéressement du sieur Lebrun. Est-ce que celui-là n'eut aucune part à la dépouille?
Allons donc, Jacques, vous vous moquez. Vous ne connaissez pas Monsieur Lebrun. Monsieur Lebrun, je voudrais reconnaître vos bons offices.
Oh, comment, mon cher ami, vous me prenez apparemment pour un Mathieu de Fourgeau? Je n'ai jamais tendu la main.
Voilà mon cher Lebrun. C'est toujours lui-même. Mais nous rougirions qu'il fût plus honnête que nous. Tenez, mon cher Lebrun, voici 2 douzaines de mouchoirs et encore cette pièce de mousseline que je vous supplie d'accepter pour votre femme et pour votre fille.
Ils me sont offerts de si bonne grâce, chevalier. Je me laisse vaincre. J'aurai d'ailleurs une prochaine occasion de prendre ma revanche avec vous par la vente des effets qui restent entre mes mains.
Et nous voilà partis et nous acheminons à toutes jambes de fiacre vers la demeure de celle que j'aimais et à qui la garniture, les manchettes et la bague étaient destinées. Le présent réussit à merveille. On fut charmante. On soupa et gaiement, comme tu penses bien.
Et vous couchâtes là?
Non.
Ce fut donc le chevalier?
Je le crois.
Du train dont on vous menait, vos 50 louis ne durèrent pas longtemps.
Oh non! Au bout de 8 jours, nous nous rendîmes chez Lebrun pour voir ce que le reste de nos effets avait produit.
Rien, ou peu de choses.
À peu près. 870 livres.
Ainsi, si je sais un peu calculer, 870 livres de Lebrun, 50 louis de Merval ou de Fourgeau, la garniture, les manchettes et la bague, allons encore 50 louis, et voilà ce qui vous est rentré de vos 19 775 livres en marchandises. Oh, diable, cela est honnête. Merval avait raison, on n'a pas tous les jours à traiter avec d'aussi dignes gens.
Cependant, l'échéance des lettres de change arriva.
Et vos fonds, ni ceux du chevalier, n'arrivèrent point.
Oh, je fus obligé de me cacher. On instruisit mes parents. Un de mes oncles vint à Paris et présenta un mémoire à la police contre tous ces fripons. Il y eut un procès. Les frais de justice furent si énormes qu'après la vente de la montre et des boîtes, il s'en manquait encore 500 ou 600 francs qu'il n'y eut de quoi tout payer.
Vous ne me croirez pas, auditeur. Et si je vous disais qu'un limonadier, décédé il y a quelque temps dans mon voisinage, laissa 2 pauvres orphelins en bas âge? Le commissaire se transporte chez le défunt. On appose un scellé. On lève ce scellé. On fait un inventaire, une vente. La vente produit 8 à 900 francs. De ces 900 francs, les frais de justice prélevés, il reste 2 sous pour chaque orphelin. On leur met à chacun ces 2 sous dans la main et on les conduit à l'hôpital.
Oh, cela fait horreur.
Et cela dure?
Mon père mourut sur ces entrefaites. J'acquittais les lettres de change et je sortis de ma retraite, où, pour l'honneur du chevalier et de mon ami, j'avouerai qu'ils me tinrent assez fidèle compagnie.
Et vous voilà tout aussi féru qu'auparavant du chevalier et de votre belle vous tenant la dragée plus haute que jamais.
Et pourquoi cela, Jacques?
Pourquoi? C'est que, maître de votre personne et possesseur d'une fortune honnête, il fallait faire de vous un sot complet, un mari.
Ma foi, je crois que c'était leur projet, mais il ne leur réussit pas.
Et vous êtes bien heureux ou ils ont été bien maladroits.
Mais il me semble que ta voix est moins rauque et que tu parles plus librement.
Cela vous semble, mais cela n'est pas.
Tu ne pourrais donc pas reprendre l'histoire de tes amours?
Non.
Et ton avis est que je continue l'histoire des miennes?
C'est mon avis de faire une pause.
Et moi, auditeur, je suis tenté de leur montrer de loin ou un vieux militaire sur son cheval, le dos voûté et s'acheminant à grands pas, ou une jeune paysanne en chapeau de paille, en cotillon rouge, faisant son chemin à pied ou sur un âne. Et pourquoi le vieux militaire ne serait-il pas ou le capitaine de Jacques ou l'ami de son capitaine?
Mais il est mort.
Vous le croyez? Mais pourquoi la jeune paysanne ne serait-elle pas ou la dame Suzon ou la dame Marguerite ou l'hôtesse du Grand Cerf ou la mère Jeanne ou même Denise, sa fille? Un faiseur de romans n'y manquerait pas. Mais je n'aime pas les romans. À moins que ce ne soit ceux de Richardson. Je fais l'histoire. Cette histoire intéressera ou n'intéressera pas, c'est le moindre de mes soucis. Mon projet est d'être vrai. Je l'ai rempli. Ainsi, ce gros prieur qui vient à nous dans un cabriolet, à côté d'une jeune et jolie femme, ce ne sera point l'abbé Hudson.
Mais l'abbé Hudson est mort.
Vous le croyez? Avez-vous assisté à ses obsèques?
Non.
Il est donc mort ou vivant, comme il me plaira. Il ne tiendrait qu'à moi d'arrêter ce cabriolet et d'en faire sortir avec le prieur et sa compagne de voyage une suite d'événements en conséquence desquels vous ne sauriez ni les amours de Jacques ni celles de son maître. Mais je dédaigne toutes ces ressources-là. Je vois seulement qu'avec un peu d'imagination et de style, rien n'est plus aisé que de filer un roman. Demeurons dans le vrai. Et en attendant que le mal de gorge de Jacques se passe, laissons parler son maître.
Un matin, le chevalier m'apparut fort triste. C'était le lendemain d'un jour que nous avions passé à la campagne, le chevalier, son ami, ou la mienne, ou peut-être de tous les deux, le père, la mère, les tantes, les cousines et moi.
Dites-moi, mon ami, n'auriez-vous commis hier aucune indiscrétion qui eût éclairé les parents d'Agathe sur votre passion?
Mais non. Pourquoi cela, chevalier?
Ah, c'est que le père et la mère, alarmés sans doute de vos assiduités, ont fait des questions à leur fille. Et voici ce qu'ils m'ont chargé de vous dire. C'est que si vous avez des vues honnêtes, rien n'est plus simple que de les avouer. On se fera honneur de vous recevoir à ces conditions. Mais que si vous ne vous expliquez pas nettement sous une quinzaine, on vous priera de cesser des visites qui se remarquent, sur lesquelles on tient des propos, et qui font tort à leur fille, en écartant d'elle des partis avantageux qui peuvent se présenter sans la crainte d'un refus.
Eh bien, mon maître, Jacques a-t-il du nez?
Dans quinzaine. Le terme est assez court. Vous aimez, on vous aime. Dans 15 jours, que ferez-vous?
Je me retirerai.
Vous vous retirerez? Vous n'aimez donc pas Agathe?
J'aime Agathe et beaucoup, mais j'ai des parents, un nom, un état, des prétentions. Et je ne me résoudrai jamais à enfouir tous ces avantages dans le magasin d'une petite bourgeoise.
Et leur déclarerai-je cela?
Si vous voulez. Oh. Mais, chevalier, la subite et scrupuleuse délicatesse de ces gens-là m'étonne. Ils ont permis à leur fille d'accepter mes cadeaux, ils m'ont laissé 20 fois en tête-à-tête avec elle. Elle court les bals, les assemblées, les spectacles, les promenades aux champs et à la ville, avec le premier qui a un bon équipage à lui offrir. Il dorme profondément tandis qu'on fait de la musique ou la conversation chez elle. Tu fréquentes dans la maison tant qu'il te plaît. Et entre nous, chevalier, quand tu es admis dans une maison, on peut y admettre un autre. Leur fille est notée. Je ne croirai pas, je ne nierai pas tout ce qu'on en dit, mais tu conviendras que ces parents-là auraient pu s'aviser plutôt d'être jaloux de l'honneur de leur enfant. Veux-tu que je te parle vrai? On m'a pris pour une espèce de bonnet qu'on se promettait de mener par le nez au pied du curé de la paroisse. Ils se sont trompés. Je trouve Mademoiselle Agathe charmante, j'en ai la tête tournée, et il y paraît, je crois, aux effroyables dépenses que j'ai faites pour elle. Je ne refuse pas de continuer, mais encore faut-il que ce soit avec la certitude de la trouver un peu moins sévère à l'avenir. Mon projet n'est pas de perdre éternellement à ses genoux un temps, une fortune et des soupirs que je pourrais employer plus utilement ailleurs. Tu diras ces derniers mots à Mademoiselle Agathe et tout ce qui les a précédés à ses parents. Il faut que notre liaison cesse ou que je sois admis sur un nouveau pied et que Mademoiselle Agathe fasse de moi quelque chose de mieux que ce qu'elle en a fait jusqu'à présent. Lorsque vous m'introduisez chez elle, convenez, chevalier, que vous me fîtes espérer des facilités que je n'ai point trouvées. Chevalier, vous m'en avez un peu imposé.
Ah, ma foi, je m'en suis un peu imposé à moi-même. Qui diable aurait jamais imaginé qu'avec l'air leste, le ton libre de cette jeune folle, ce serait un petit dragon de vertu.
Comment, diable, monsieur, cela est bien fort. Vous avez donc été brave une fois dans votre vie.
Il y a des jours comme cela, j'avais sur le cœur l'aventure des usuriers et plus que tout, les rigueurs de Mademoiselle Agathe.
Et d'après ce courageux discours, adressé à votre cher ami le chevalier de Saint-Ouen, que fîtes-vous?
Je tins parole, je cessai mes visites.
Bravo, bravo, mio caro maestro.
Il se passa une quinzaine sans que j'entendisse parler de rien, si ce n'était par le chevalier, qui m'instruisait fidèlement des effets de mon absence dans la famille.
On commence à s'étonner. On se regarde, on parle, on se questionne sur les sujets de mécontentement qu'on a pu te donner. La petite fille joue la dignité.
On ne voit plus ce monsieur. C'est qu'apparemment, il ne veut plus qu'on le voie. À la bonne heure. C'est son affaire.
Puis elle fait une pirouette, elle va à la fenêtre, elle revient, mais les yeux rouges. Tout le monde s'aperçoit qu'elle a pleuré.
Qu'elle a pleuré. Mmh.
Oh. Ensuite, elle s'assied, elle prend son ouvrage, elle veut travailler, mais elle ne travaille pas. On cause, elle se tait. On cherche à l'égayer, elle prend de l'humeur. On lui propose un jeu, une promenade, un spectacle, elle accepte. Et lorsque tout est prêt, ah, c'est une autre chose qui lui plaît et qui lui déplaît le moment d'après.
Oh,
ne voulait-il pas que tu te troubles? Non. Ah non, je ne dirai plus rien.
Mais chevalier, vous croyez donc que si je reparaissais...
Je crois que tu seras un sot. Ah, il faut tenir bon. Il faut avoir du courage. Ah, si tu reviens sans être appelé, tu es perdu. Il faut apprendre à vivre à ce petit monde-là.
Mais si l'on ne me rappelle pas...
On te rappellera.
Si l'on tarde beaucoup à me rappeler...
On te rappellera bientôt. Peste! Un homme comme toi ne se remplace pas aisément. Si tu reviens de toi-même, on te boudera. On te fera payer chèrement ton accartade. On t'imposera la loi qu'on voudra t'imposer. Et il faudra t'y soumettre. Il faudra fléchir le genou. Enfin, veux-tu être le maître ou l'esclave? Choisis. À te parler vrai, ton procédé a été un peu leste. On n'en peut pas conclure un homme bien épris. Enfin, ce qui est fait, et s'il est possible d'en tirer bon parti, il n'y faut pas manquer.
Et elle a pleuré.
Eh bien, elle a pleuré. Il vaut encore mieux qu'elle pleure que toi.
Mais si l'on ne me rappelle pas...
Mais on te rappellera, te dis-je. Ah, lorsque j'arrive, je ne parle pas plus de toi que si tu n'existais pas. On me tourne, je me laisse tourner. Enfin, on me demande si je t'ai vu. Je réponds indifféremment, tantôt oui, tantôt non. Et puis, on parle d'autre chose. Mais on ne tarde pas à revenir à ton éclipse.
Et Agathe?
La consternation y est, c'est moi qui t'en assure.
Non, et Agathe?
Agathe me tire à l'écart et dit...
Chevalier, concevez-vous quelque chose à votre ami? Vous m'avez assuré tant de fois que j'en étais aimée. Vous le croyez sans doute. Et pourquoi ne l'auriez-vous pas cru? Je le croyais bien, moi.
Oh, ne voilà-t-il pas que tu en feras autant? Ah non, je ne te dirai plus rien, cela est décidé. Je vois ce que tu désires. Mais il n'en sera rien, absolument rien. Puisque tu as fait la sottise de te retirer sans rire ni raison, je ne veux pas que tu la doubles en allant te jeter à leur tête. Il faut tirer parti de cet incident pour avancer tes affaires avec Mademoiselle Agathe. Après ce que tu as fait, en étant encore à lui baiser la main. Oh, enfin là, chevalier! Là, la main sur la conscience. Nous sommes amis. Et tu peux sans indiscrétion t'expliquer avec moi. Vrai, tu n'en as jamais rien obtenu?
Non.
Tu mens, tu fais le délicat.
Je le ferais peut-être si j'en avais raison, mais je te jure que je n'ai pas le bonheur de mentir.
Quoi, on n'a pas eu le moindre petit moment de faiblesse?
Non.
C'est qu'il sera venu, que tu ne l'auras pas aperçu et que tu l'auras manqué. J'ai peur que tu n'aies été un peu béné. Mmh. Les gens honnêtes, délicats et tendres comme toi, ils sont sujets.
Mmh. Mais vous, chevalier, que faites-vous là?
Ah ben rien.
Vous n'avez point eu de prétention?
Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Elles ont même duré assez longtemps. Mais tu es venu. Tu as vu et tu as vaincu. Je me suis aperçu qu'on te regardait beaucoup, mais qu'on ne me regardait plus guère. Je me le suis tenu pour dit. Nous sommes restés bons amis, on me confie ses petites pensées, on suit quelquefois mes conseils. Et faute de mieux, j'ai accepté le rôle de subalterne auquel tu m'as réduit.
Monsieur, deux choses. L'une, c'est que je n'ai jamais pu suivre mon histoire sans qu'un diable ou un autre ne m'interrompît, et que la vôtre va tout de suite.
Est-ce que tu as oublié ton refrain, et le grand rouleau, et l'écriture d'en haut?
Et l'autre chose, c'est que je persiste dans l'idée que votre chevalier de Saint-Ouen est un grand fripon, et qu'après avoir partagé votre argent avec les usuriers Lebrun, Merval, Mathieu de Fourgeau ou Fourgeau de Mathieu, la Bridois, il cherche à vous en battre de sa maîtresse, en tout bien et tout honneur, s'entend, par devant notaire et curé, afin de partager encore avec vous votre femme.
Sais-tu ce que tu fais là, hein? Une chose très commune et très impertinente.
J'en suis bien capable.
Tu te plains d'avoir été interrompu et tu interromps.
C'est l'effet du mauvais exemple que vous m'avez donné. Une mère veut être galante et veut que sa fille soit sage. Un père veut être dissipateur et veut que son fils soit économe. Un maître veut...
Interrompre son valet, l'interrompre tant qu'il lui plaît et non pas être interrompu.
Auditeur, est-ce que vous ne craignez pas de voir surnouveler ici la scène de l'auberge? Où l'un criait « Tu descendras », l'autre « Je ne descendrai pas ». À quoi tient-il que je ne vous fasse entendre ?
J'interromprai.
Tu n'interrompras pas.
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 C'était Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Avec Jean-Pierre Cassel, Jacques. Jean-Roger Caussimon, son maître. Jacques Castelot, le chevalier de Saint-Ouen. Et René Clermont, Christiane Lasquin, Maurice Nazil, Jean Péméja, Claude Pieplu et Lily Sioux. Avec Jacques Duménil, Diderot. Bruitage, Robert Moufra. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistant de production, Pierre Cazaret. Réalisation, Henri Souberain.
Cet épisode, le 8e, a été diffusé pour la première fois sur RTF Promotion, bientôt renommée France Culture, le 19 novembre 1963. À suivre, et d'ici là, à télécharger durant un an, ainsi que les précédents épisodes, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.